Berlin.
It's morning edition from NPR News.
Let me hear some people how see.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous allons essayer de répondre à ces questions autour de la Turquie. Comment Erdogan est-il devenu ce leader autocrate qui emprisonne ses opposants? Lui qui a été élu sur un tout autre programme, plus progressiste, pro-européen. Que cherche-t-il pour la Turquie? Quel vieux rêve impérialiste ou revanche expansionniste? Où amène-t-il son pays pour nous aider à naviguer? Anne Angloer, correspondante pour France Inter, est là avec son livre. Le bruit du monde est au Brésil avec des autochtones dont le territoire se réduit comme peau de chagrin depuis des décennies. Les ravages dans cette communauté amazonienne, vous les entendrez, ils sont terribles. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Legénie a trouvé donc des enregistrements de Ben Ali, l'ancien président tunisien, incroyable à écouter. Des habitants des Pouilles, dans le talon de la botte italienne, victimes d'attentats mafieux et des razzias sur les trains de marchandises en Californie. 18h50, passons genre dans le monde et Julia Foyce avec des femmes afghanes et avec des masques chirurgicaux roses en Italie. Et puis 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four à contre-pied qui pense que la nouvelle présidente du Parlement européen et ses positions très conservatrices, notamment sur l'avortement, c'est pas forcément une mauvaise idée. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Anne Angloer.
Bonsoir Fabienne.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes la correspondante de France Inter, notamment en Turquie. On a l'habitude de vous entendre ici dans Un jour dans le monde. Vous signez donc La Turquie d'Erdogan. C'est publié aux éditions du Rocher. Qu'on est heureux d'ouvrir avec vous parce qu'il nous donne des clés, beaucoup de clés pour comprendre cette Turquie. C'est d'ailleurs comme ça que vous le dites aussi, qui à la fois nous inquiète mais aussi nous intrigue terriblement. D'abord, vous commencez par vous féliciter qu'on ait enfin appris à prononcer le nom d'Erdogan. Ça fait bientôt 20 ans.
Enfin, après
il
20
était
ans,
temps,
ouais.
Après 20 ans, voilà, on a cessé de l'appeler Erdogan, honnêtement c'était il n'y a pas si longtemps,
ouais.
Mais c'est vrai que c'est le cas aujourd'hui. Alors je vous rassure, je ne vais pas prendre votre livre dans l'ordre, mais vous l'ouvrez sur la jeunesse et la génération Erdogan. Et ça n'est pas pour rien, on sait bien que ce président turc aujourd'hui est dans une position compliquée, on sait que l'économie va mal, on sait que l'inflation est à un niveau record, on en a parlé ici même il n'y a pas si longtemps que ça. Cette jeunesse, vous le dites, c'est 7 millions d'électeurs supplémentaires aux prochaines élections en 2023 et c'est beaucoup. Est-ce que vous diriez que cette génération Erdogan, c'est aussi celle qui peut faire tomber Erdogan?
La faire tomber aux prochaines élections, peut-être pas, parce que c'est à peu près 15% de la population qui, il y a 4 ans, avait entre 15 et 24 ans. Donc il pourra voter pour la première fois, pour la plupart, aux prochaines élections qui auront lieu au plus tard en juin 2023. Mmh. Mais en tout cas, c'est cette jeunesse qui n'est pas du tout acquise à Recep Tayyip Erdogan, qui à la limite ne bénéficie pas des miracles économiques qui lui sont comptés quotidiennement par le président Erdogan, qui n'a pas forcément cette mémoire de l'ancienne Turquie que Recep Tayyip Erdogan oppose sans cesse à la nouvelle Turquie. Peut être un des éléments qui déjà aujourd'hui contribue à sa baisse de popularité et sur le court moyen terme pourrait contribuer à amener une alternance politique en Turquie.
Et puis elle a internet évidemment, cette jeunesse, elle sort, elle vit, elle fait des études, etc. Donc elle a un regard sur le monde qui forcément l'amène peut-être vers autre chose.
Oui, elle est très connectée, ça c'est évident. Alors, c'est un pays très jeune, la Turquie, la moitié de la population a moins de 32 ans, c'est une jeunesse qui est beaucoup plus diplômée que ses parents déjà, et qui effectivement se renseigne et aussi parce que les médias traditionnels qui sont très largement acquis aujourd'hui au chef de l'État ne lui apportent pas les informations qu'elle cherche sur leur pays et sur le monde, se renseigne beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux ou aussi sur les filiales de médias européens, de grands médias européens en turc qui ont bourgeonné ces dernières années dans le paysage médiatique turc pour contrebalancer ce manque que d'indépendance de la presse.
Vous diriez qu'il en a peur de cette jeunesse, parce que vous dites aussi qu'il est assez démuni finalement, qu'il ne sait pas très bien comment lui parler ni par quel bout la prendre.
Non, ça c'est assez frappant quand on... Alors elle l'intéresse beaucoup, ses voix l'intéressent beaucoup, ça c'est quelque chose dont il ne se cache pas. Il dit régulièrement, il nous faut conquérir la jeunesse, mais alors ça j'ai envie de dire, les autres partis, les partis d'opposition le disent aussi, et cherchent aussi à séduire. Et pour l'instant c'est difficile pour eux de trouver le bon message, de trouver trouver, au-delà d'un anti-erdoanisme primaire, j'ai envie de dire, de susciter chez cette jeunesse l'espoir. Je crois que c'est surtout ça, l'espoir et une vision de ce que pourrait être une société, une économie, une démocratie au-delà de la Turquie de Recep Tayyip Erdogan.
Ce qui est intéressant, c'est que vous dites que les cours de religion devenus obligatoires, les écoles et les lycées religieux dont le nombre pullule depuis effectivement Erdogan, tous ces lieux sont de moins en moins fréquentés en fait. Et évidemment que le manque de liberté d'expression, tout le monde le voit aussi. Et en vous lisant, et pas seulement sur les jeunes, ça donne un peu le sentiment d'un peuple qui sait très bien qu'il ne gagnera pas par la révolte, mais qui sait ce qui est en train de se passer aujourd'hui et qui attend tranquillement, en se disant nous aurons d'autres cartes en main, peut-être dans un an, peut-être un peu plus tard, mais qui attend au fond le renversement de ce régime, mais certainement pas dans la rue.
En tout cas, c'est ce que l'opposition espère. Là, elle a l'impression, je le sens, plus je discute avec des opposants, plus j'ai l'impression qu'ils ont l'impression que la prochaine fois, ce sera peut-être la bonne. Alors, ça peut comporter le risque de se reposer un peu trop près, trop sur ses lauriers. Mm-hmm. Quand on regarde aujourd'hui les sondages, la cote de popularité de Recep Tayyip Erdogan, c'est vrai qu'elle est en baisse. C'est vrai qu'en particulier, en grande partie, à cause de la situation économique que son parti, l'AKP, perd des points et que lui-même perd des points dans les sondages. Et c'est peut-être ça le risque. Pour l'opposition, en tout cas l'un des risques, c'est de considérer que les choses sont gagnées d'avance et de porter peut-être trop le message aux électeurs que après Erdogan ce sera forcément mieux. Il faut expliquer pourquoi ce serait forcément mieux d'après eux, et ça l'opposition pêche encore sur ce côté-là. On est encore beaucoup sur d'abord tenter de rassembler une opposition, parce qu'aucun parti ne peut objectivement battre l'AKP de Recep Tayyip Erdogan.
Vous dites que c'est en cours en fait, c'est ça peut-être le progrès d'ailleurs par rapport aux élections précédentes. Ce rassemblement-là, il existe, il est en cours, est-ce qu'il est mûr ?
C'est ça la question. C'est-à-dire que c'est la nouveauté d'abord. Recep Tayyip Erdogan a pu compter pendant des années sur une opposition divisée qui avait du mal à produire un contre-discours face à lui. C'est une forme d'hégémonie qui lui permettait d'enchaîner la victoire électorale. Là, on l'a bien vu aux élections municipales de mars 2019 où il a perdu Istanbul, il a perdu Ankara, il a perdu beaucoup de grandes villes où l'opposition a réussi à s'imposer parce qu'elle a été unie. Et ces élections-là, notamment celles d'Istanbul, qui ont aussi par ailleurs fait émerger d'éventuelles figures candidats éventuellement victorieux face à Recep Tayyip Erdogan, ont été importantes parce qu'elles ont permis à l'opposition de franchir une barrière psychologique. L'une de mes interlocutrices dans le livre dit « Ces élections nous ont prouvé qu'on pouvait gagner. Les élections en Turquie, c'est pas forcément un vote qui a lieu à date régulière et où à la fin, Recep Tayyip Erdogan gagne toujours. »
Alors, sauf quand, effectivement, on se souvient de 2015, par exemple, où le score lui plaît pas, donc il se dit « c'est pas grave, on va le refaire. » Est-ce qu'il y a un risque qui existe aussi pour 2023?
Oui, puis aux élections de 2019 aussi, hein, parce qu'il faut rappeler l'élection à Istanbul s'est jouée en deux fois.
Absolument, c'est vrai. Ouais.
Avec, et à ses dépens d'ailleurs, parce qu'en mars, son candidat perd avec 13 000 voix d'écart. En juin, il perd avec 800 000 voix d'écart. Donc, effectivement, si le score est serré, il y a ce risque d'un remake de l'élection municipale de 2019 à Istanbul, d'autant plus que les enjeux là ne sont pas du tout municipaux, ce sont des enjeux majeurs pour Recep Tayyip Erdogan. Il s'agit de sa survie politique. Donc, la question se posera évidemment.
Vous essayez de comprendre dans ce livre, Anand Leher, quel est le moment où Erdogan a tourné, en fait. Je disais tout à l'heure en introduction qu'il n'a pas été élu sur ce qu'il est aujourd'hui. Il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Erdogan, il y a eu le mouvement de Gezi en 2013. Il y a eu trois étapes, en fait. Il y a eu ce mouvement en 2013 qui a été réprimé de manière extrêmement violente. Il y a eu le vote en 2015. Il y a eu l'épisode du putsch en 2016. Et au fond, est-ce qu'on sait pourquoi il tourne à ce moment-là? En vous lisant, moi j'ai eu simplement, et c'est presque basique, l'idée d'un homme qui ne veut pas quitter le pouvoir, en fait, dont le dessein depuis le début, de toute façon, est de le garder. Si la paix ne suffit pas, on le gardera par la guerre, mais le but ultime, c'est de garder le pouvoir.
Oui, et ça aussi, c'est très visible et audible dans le changement de discours entre le Recep Tayyip Erdogan de 2002-2003, la première fois qu'il est élu.
Qui est Premier ministre d'ailleurs à ce moment-là.
Qui était Premier ministre d'ailleurs encore jusqu'en 2014, Recep Tayyip Erdogan est président depuis 2014, où à l'époque, c'est un pouvoir qui d'abord se présente comme réformateur, pas comme musulman-démocrate, c'est un terme qu'il rejetait même à l'époque comme conservateur-démocrate, avec un programme de libérer la Turquie des tutelles, y compris la tutelle militaire, élargir la démocratie, développer l'économie, tendre la main aux minorités, à commencer par la minorité kurde, rapprocher la Turquie de l'Union européenne, etc. Et dans les discours de Recep Tayyip Erdogan aujourd'hui, c'est plus du tout ces mots-là. Quand vous comparez préparer ses discours.
C'est très impressionnant. 15
ans.
C'est pas le même homme.
Non, non. Alors, il continue de parler beaucoup et de faire beaucoup de discours, mais le champ lexical a complètement changé. Là, ce sont les putschistes, les terroristes, les ennemis de l'extérieur, aidés d'ennemis de l'intérieur.
Mais donc, est-ce qu'il a changé ou est-ce que c'est j'y suis, j'y reste? Et quel que soit le discours, en fait.
Les enjeux pour lui, pour son parti, pour les cadres au pouvoir, les élites aujourd'hui au pouvoir sont immenses. Et tout un, imaginez, ça fait 20 ans que ce parti est au pouvoir. La perte, ne serait-ce que la perte des grandes municipalités d'Istanbul et Ankara, leur ont fait perdre un certain nombre de réseaux, y compris clientélistes, qui leur permettaient aussi de mobiliser au moment des élections nationales. Recep Tayyip Erdogan, par ailleurs, a extrêmement peur qu'une défaite dans les urnes soit suivie, comme ses opposants aujourd'hui lui promettent, d'une série de procès pour les violations des droits de l'homme dont il se rend coupable dans son pays.
Est-ce que c'est à ça que ça sert aussi, se maintenir au pouvoir, de rentrer en guerre à peu près partout, en tout cas d'être de tâcher, d'ailleurs il y réussit plutôt bien, hein, d'être une influence en Syrie, en Libye, dans le Haut-Karabakh, etc. Est-ce que ça participe de ça? Vous dites qu'on a dénoncé son ottomanisation, mais il y a aussi cette phrase que j'ai trouvée passionnante qui rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, qui dit, comme la plupart des Turcs aujourd'hui, Erdogan ne serait pas particulièrement en restaurant l'Empire, ni à reconquérir des territoires perdus. Ce dont il rêve surtout, c'est d'imprimer sa marque, c'est de rester au pouvoir tant qu'il le pourra.
Oui, alors sur les aventures de politique étrangère turque...
Aventure, vous dites. Mais d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'un de vos interlocuteurs dit, mais il n'y a pas de politique étrangère en Turquie, de toute façon, il n'y en a pas, ça n'existe pas.
Voilà, il dit non seulement ça, et puis il dit aussi que vous pouvez lui mettre l'étiquette que vous voulez, ça ne suffira pas à la définir. Alors, il faut quand même reconnaître que l'année 2021 a été beaucoup plus calme pour la Turquie sur la scène internationale, en tout cas qu'il y a eu beaucoup moins de tensions, et c'est revendiqué aussi aujourd'hui par la Turquie, aussi parce qu'il y a un pragmatisme, une reconnaissance que le conflit permanent, la tension permanente mène à un isolement qui ne sert pas finalement peut-être les intérêts de la Turquie, les intérêts économiques, mais aussi...
Qui s'est fâché avec tout le monde autour. En fait,
stratégie. Oui, ouais. Il y a une période où avec la France entre autres,
notamment.
C'était extrêmement extrêmement tendu. Et là, on le voit inviter dans son palais le prince héritier des Émirats Arabes Unis. Il se rendra le mois prochain aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite avec tout le passif quand même de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018 dans le consulat d'Istanbul. Donc il y a aussi une prise de conscience chez les élites aujourd'hui en Turquie que la menace, en tout cas l'entretien de l'image de la menace peut être utile électoralement. Après, je suis celle aussi qui pense qu'il ne faut pas forcément, lorsque Recep Tayyip Erdogan ou d'autres par ailleurs leaders ont des politiques étrangères qui vont à l'encontre d'intérêts de nous Occident ou leaders occidentaux, identifier forcément ça comme il fait ça pour son opinion publique, il fait ça pour augmenter ses voix, ou il fait ça pour miner le camp occidental, ou que sais-je. La Turquie, Recep Tayyip Erdogan, comme tous ceux qui dirigent aujourd'hui la Turquie, ont parfaitement conscience que la Turquie ne peut pas se passer de son ancrage occidental, de sa place dans l'OTAN, de son objectif européen. Après, la question, c'est de savoir comment se fait l'équilibre, et ça, on voit bien que Recep Tayyip Erdogan a beaucoup de mal à le tenir.
Mais rapidement, Anne Handler, vous dites qu'il est quoi? Est-ce qu'il est impérialiste? Est-ce qu'il est expansionniste? Est-ce qu'il est juste très ambitieux en fait, et c'est par là qu'il le prend? Comment on peut le qualifier?
Oui, je pense que Recep Tayyip Erdogan, d'abord personnellement, a une certaine image de lui-même sur sa place dans l'histoire de son pays, sur la mission quasi divine qui lui a été confiée. Et puis c'est aussi tout simplement un leader politique né qui n'a connu dans sa vie quasiment que la politique et qui ne s'imagine pas, comme beaucoup de ses partisans pur et dur, ne s'imagine pas ailleurs que à la tête de l'État aujourd'hui et fera tout pour empêcher qu'une alternative politique s'impose.
Vous le disiez, il sait aussi, il est bien conscient qu'il a besoin de l'OTAN, qu'il a besoin de l'Europe, qu'il a besoin évidemment de tous ces pays-là. Est-ce que l'idée d'une adhésion à l'Union est encore dans les têtes des Turcs? Alors, pas forcément avec lui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, même il y a absolument zéro chance, mais dans un après, est-ce que ça existe encore dans la tête des Turcs, l'adhésion européenne?
Je ne sais pas si ça existe comme idée réalisable à court, moyen terme, avec ou sans Recep Tayyip Erdogan. En tout cas, le rêve existe encore chez beaucoup, y compris de jeunes Turcs. C'est ça que je trouve toujours intéressant, de jeunes Turcs qui n'ont pas connu ces années d'euphorie au début des années 2000, où la Turquie entamait les négociations d'adhésion et où même s'ils ont vite déchanté, on croyait encore à cette perspective. Mais plus l'Europe, l'Union européenne, comme un contre-modèle, sans avoir d'illusions sur ce que l'Europe peut représenter. Mais juste parce que l'Europe garde cette image de prospérité par rapport à la Turquie, l'image de liberté d'expression et dans les choix des modes de vie par rapport à la Turquie, encore une fois, par comparaison, l'Europe reste dans l'esprit de beaucoup de jeunes qui d'ailleurs veulent s'y rendre. Alors après, y aller, c'est une autre question, mais veulent y étudier, y voyager, reste une référence pour beaucoup. Oui.
Une dernière chose, vous l'écrivez d'ailleurs à la fin de votre livre, vous dites « La Turquie arrivera-t-elle au bout de ce processus engagé il y a plus de 15 ans ? Peut-elle redevenir ce pays qui, dans la première moitié des années 2000, abolissait la peine capitale, affichait une tolérance zéro envers la torture, les mauvais traitements, prenait l'égalité homme-femme, levait des restrictions notamment sur la liberté de la presse ? En gros, est-ce qu'on peut remettre le dentifrice dans le tube ?
Avec Recep Tayyip Erdogan, ça paraît quand même assez compliqué.
Avec lui, non. Mais est-ce que même après, on appuie sur le bouton reset, en quelque sorte, et on enlève ces 20 années, on peut revenir à ce que la Turquie était au début des années 2000 ?
Ce qu'elle était peut-être à la fin des années 2000, quand la Turquie donnait encore cette image d'ouverture, s'ouvrait sur certains débats qui ne sont pas forcément refermés au sein de la société. C'est juste qu'on les entend moins sous ce discours dominant qui résume généralement la Turquie à ce que dit son président. Mais moi, je crois justement parce qu'on a eu l'expérience d'un certain nombre d'ouvertures, y compris sur la question kurde, qui était débattue dans la société et où la société était prête à faire certaines avancées. C'est quelque chose que sous un autre gouvernement, un autre type de gouvernance, la Turquie pourrait retrouver. Moi, je suis assez optimiste, oui. En tout cas, quand j'écoute et je fais parler la société turque.
Eh ben, on sera ravis de l'écouter et grâce à vous de l'entendre, la société turque. Ça s'appelle La Turquie d'Erdogan aux éditions du Rocher, signée Anne Andlauer. Merci beaucoup.
Merci.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe dans la forêt amazonienne au Brésil avec des autochtones qui perdent leur territoire depuis 40 ans et les plus jeunes en font des dépressions terribles. La troupe du mardi pour vous emmener jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Logini.
Le sud de l'Italie secoué par des attentats à répétition, la quatrième mafia est pointée du doigt.
Passons genre dans le monde et Julia Foyz qui nous parlera notamment de masques roses pour les carabinieries. Le monde d'après, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir à tous. Une opposante à l'avortement, Roberta Metsola, est donc élue à la tête du Parlement européen. On va s'interroger, est-ce un symbole consternant ou un choix raisonnable ?
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète continue avec Mélodie Gardot. Ninguen Ninguen, c'est sur France Inter. À tout de suite.
Saudade, vem, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade, vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade, deixa eu esquecer que quis amar. Saudade, vem. Eu deixei lá toda tua inquietação, eu deixei lá, te lacera do coração, eu deixei lá um beijo e deixei lá tua mão, eu deixei lá, não guardo na memória, cara, eu deixei lá toda essa história, eu deixei lá e dói, mas deixa lá, já foi. Saudade, vem, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade, vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade, deixa eu esquecer que quis amar. Saudade, vem. Deixe pra lá, ou gosta da ingratidão. Deixe pra lá sua frieza. Deixe pra lá triste beleza. Deixe pra trás, todo medo se desfaz. Deixe pra trás, meu caminho é de paz. Feche teu olhar tristonho. Feche mais outro sonho. Saudade, vem, vem me abraçar, pois não quero amar ninguém.
Le bruit du monde ce soir est au Brésil, en Amazonie, avec hélas ce bruit familier. Que se passe-t-il quand il n'y a plus de forêt pour ceux qui y habitent? Et on n'est pas en train de parler des oiseaux, on est en train de parler d'hommes et de femmes. L'Amazonie est rognée. Chaque année, certains peuples autochtones se retrouvent menacés et parfois même dépassés. Dans le sud du pays, vous allez faire connaissance avec les Avagarani. Depuis 40 ans, ils n'ont quasiment plus de territoire et se battent avec leurs tout petits moyens face aux institutions. C'est même tragique. Les Avagarani ont fait face à une vague de suicides. Sans territoire, ils dépérissent littéralement. Et le reste, c'est Alexandre Berthaud qui raconte.
À la sortie d'un village de l'ouest du Paraná, tout au sud du Brésil, un chemin en terre ocre quitte la route principale. Bientôt se dressent quelques arbres, plusieurs cabanes, par terre des poules et des poulets zigzags. Dans ce campement vivent une trentaine d'Avaguarani, un peuple autochtone de la région. Les volailles sont leur principale source de protéines, raconte Oscar Benitez Lopez, le chef. Il regarde de l'autre côté du chemin en terre les champs de soja à perte de vue.
Tous les secteurs, c'était de la forêt. Maintenant, on n'a nulle part où aller chercher les aliments, nos médicaments naturels. On n'a même plus la place de planter. On n'a plus de droits.
Il y a un siècle, les Avaguarani occupaient librement la région où coulait le fleuve Paraná, où poussait la dense forêt Mata Atlantica. Puis il y a eu déforestation pour agriculture, puis dictature brésilienne qui a décidé de construire un barrage sur le fleuve Paraná, le barrage d'Itaipu. Les Avaguarani ont été chassés de leurs habitations. Ils ont aussi perdu un lieu sacré, la cascade des Sept Chutes, un site extraordinaire avec le débit le plus important au monde avant 1982, date à laquelle elle a été inondée par le réservoir du barrage. Aujourd'hui, les Avaguarani sont 5000 à vivre dans la région. Itaipu a tué la moitié de notre culture, dit Gilberto Benitez. Il est un des seuls universitaires Avaguarani. Il est aussi professeur de langue dans les villages.
Nous n'avons pas assez de place pour suivre les règles de nos dieux. On ne le fait plus, ça affecte notre culture et notre spiritualité. On est à la recherche de cette liberté qu'on avait autrefois. On lutte pour la liberté des nouvelles générations.
Pour compenser l'inondation par le barrage, les autorités brésiliennes n'ont accordé que 3 petits villages, quelques centaines d'hectares à peine, aux Avaguarani. Le recensement lors de l'édification du barrage d'Itaipu a été fait par la dictature, qui a compté 20 familles déplacées, mais selon une étude plus récente, 40 à 50 villages ont en fait été inondés. C'est pourquoi Gilberto Benitez parle de lutte, d'action. Les Avaguarani ont commencé à construire des campements sur les terres appartenant au barrage d'Itaipu, comme celui d'Oscar en début de reportage. Dans ces endroits, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de poste de santé, il n'y a pas d'électricité. Ces lieux, Osmarina de Oliveira, les visite souvent. Elle travaille à la CIMI, une association venant en aide aux peuples autochtones.
Dans ce campement, la justice a refusé l'approvisionnement en eau potable, en pleine pandémie, sous prétexte que ce sont des terres appartenant officiellement à Itaipu.
Les dirigeants d'Itaipu ne parlent pas au micro, ils répondent par email, ils répètent les textes officiels. Ces terres sont à eux, pas aux autochtones. La FUNAI, organisme qui détermine les territoires protégés au Brésil, n'a pas effectué une seule démarcation autochtone depuis l'arrivée de Jair Bolsonaro au pouvoir en 2018. En face, les Avaguarani luttent. Mais à quel prix? Fernando Lopez est cacique, c'est-à-dire chef, dans un des campements illégaux situés au bord du réservoir du barrage.
Depuis que je suis né, mon père, ma mère, ils étaient déjà dans la lutte. Et pourtant, on n'a toujours pas de démarcation de terre. Et depuis tout ce temps, on lutte. Oui, c'est clair que ça nous fatigue, mais ce n'est pas pour ça qu'on va arrêter de se battre pour notre droit.
Il y a quelques semaines, une femme de sa communauté a été retrouvée morte. Elle s'est pendue à la structure d'une des habitations du campement. L'année dernière, les dépressions, les tentatives de suicide ont fortement augmenté chez les jeunes, notamment 11 adolescents ou jeunes adultes sont morts, 20 ont tenté d'en finir. Une des rares à en parler s'appelle Maria.
J'ai essayé de me suicider 3 fois. Les psychiatres voulaient m'interner. J'ai peu de souvenirs du début de la dépression, mais je sais que notre lutte, ça a dépassé mes forces parfois. On va continuer à se battre, mais waouh, il y a des moments de souffrance chez moi où je ne peux rien entendre.
Depuis la vague de suicides, les Ava Guarani organisent des rencontres pour que les jeunes puissent s'exprimer. Ces derniers mois, le nombre de tentatives a baissé. Maria, elle, veut devenir avocate. La justice a rouvert il y a peu une requête en indemnisation du peuple Ava Guarani pour les dommages subis par la construction du barrage d'Itaipu.
Alexandre Berthaud pour le reportage au Brésil. Merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Sébastien Legénie. Et Sébastien, là, nous sommes le 14 janvier 2011 dans les rues de Tunis. C'est la première des révolutions arabes qui va provoquer la chute de Ben Ali. Et nos confrères de la BBC ont mis la main sur des enregistrements secrets.
Ouais, les enregistrements des 2 derniers jours du règne de Ben Ali, présentés comme des échanges téléphoniques entre le président tunisien et ses plus proches collaborateurs, des coups de fil qui laissent entendre que Ben Ali aurait tenté de revenir rapidement en Tunisie après sa fuite, mais qu'il en a été dissuadé. Alors revenons 11 ans en arrière, on est donc en janvier 2011, les manifestations ne cessent de s'amplifier, le 14 janvier précisément, des dizaines de milliers de personnes descendent dans le centre de Tunis, la police, l'armée sont totalement débordées, l'état d'urgence est déclaré et le pouvoir prend peur. La famille Ben Ali prend l'avion pour Jeddah en Arabie Saoudite. Dans l'avion, la BBC croit savoir que Ben Ali contacte alors le ministre de la Défense. Je reviens dans quelques heures, lancerait Ben Ali. Vous êtes le bienvenu, lui répond le ministre. L'armée sera à vos côtés. Sauf que quelques minutes plus tard, nouvel appel. Cette fois-ci, le président tunisien serait en ligne avec le chef des armées. Comme conseillez-vous, demande Ben Ali, de revenir maintenant ou plus tard? Je pense que c'est mieux que vous attendiez un moment, lui répond le chef des armées. La situation n'est pas bonne. La suite de l'histoire, on la connaît. Ben Ali ne reviendra jamais en Tunisie. Il mourra en Arabie Saoudite en 2019. Voilà un moment d'histoire resté confidentiel pendant plus de 10 ans. La BBC dit avoir fait analyser ces enregistrements. Pas de manipulation, disent les experts. Les voix sont authentiques. Pour autant, aucun des intervenants ne confirme leurs propos. Pas question d'apparaître comme celui qui a laissé mourir le président tunisien en exil.
Allez, direction le sud de l'Italie, secouée par plusieurs attentats depuis le début de l'année.
9 attentats en 9 jours depuis début janvier dans la province des Pouilles, tout au bout de la botte italienne. À chaque fois, un mode opératoire similaire, des bombes déposées devant ou à l'intérieur de petits commerces, un salon de coiffure, un concessionnaire auto, un magasin de jouets, une parfumerie, un restaurant. Pas de mort à déplorer pour le moment. Le point commun entre toutes ces explosions, vraisemblablement des commerçants qui n'auraient pas payé le pizzo, c'est-à-dire l'impôt mafieux dont ils doivent s'acquitter s'ils ne veulent pas de problème.
Encore un épisode, un initio.
Celui que l'on entend là, c'est le maire de San Severo, petite bourgade frappée 4 fois par ces attentats. Un maire en colère qui parle de déclaration de guerre contre les entrepreneurs de sa ville et qui en appelle à l'État italien, notamment à la ministre de l'Intérieur, pour prendre des mesures concrètes contre cette stratégie mafieuse. La mafia que ce maire vise du doigt, c'est ce qu'on appelle la 4e mafia, une mafia moins connue que ses 3 grandes sœurs, la Cosa Nostra sicilienne, la 'Ndrangheta calabraise et la Camorra napolitaine. La 4e mafia est implantée dans les Pouilles, elle se radicalise, semble-t-il, car la société civile a décidé de se rebiffer, les dénonciations augmentent. Résultat, la mafia punit aussi les dénonciateurs, un cercle vicieux dont l'Italie a bien du mal à sortir.
Et on termine, Sébastien, avec des attaques de train dignes d'attaques de diligence.
Ça se passe à Los Angeles, en Californie, des pilleurs organisent de véritables raids sur des trains de fret ou de marchandises. La télé américaine diffuse des images surréalistes depuis la semaine dernière. On ne voit pas les pilleurs, mais le résultat de leur larcin, des voies ferrées jonchées de milliers de cartons, de boîtes, d'enveloppes, vols de parfums, de sacs Vuitton, mais aussi de pneus, de machines à laver, plus de 60% de vols en un an, à cause du Covid notamment, mais aussi parce que les trains de fret américains sont des cibles commodes, longs de plusieurs kilomètres. Ils avancent à la vitesse de l'escargot, facile de monter dessus, donc les compagnies ferroviaires envisage maintenant de sécuriser les trains avec des drones. Les diligences sont donc toujours attaquées, mais les bons cow-boys ont disparu, Fabienne.
Allez, merci beaucoup Sébastien Legénie. Bien sûr, on se retrouve demain et vous partez avec les Irlandais de Fontaine D.C. Jackie Dandelion sur France Inter. Fontaine D.C., Jackie Down the Line. Mais que vois-je en ce mardi, mesdames, messieurs et autres genres? Voici Julia Foyce.
France Inter. Un jour dans le monde.
Julia qui, chaque semaine, nous donne des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT et la colère des Afghanes. Julia qui ne faiblit pas pour commencer.
Voilà ce qu'on entendait dimanche devant l'université de Kaboul. Un groupe de femmes qui, bravant toutes les restrictions imposées par les talibans, s'étaient rassemblées en pleine rue, point levé, scandant égalité, réclamant justice, brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « droit des femmes, droit de l'homme ». Comme chaque fois, la manifestation a été vite et brutalement interrompue. Aspergées de gaz au poivre, elles ont dû se disperser. Elles reviendront, c'est sûr. Depuis le mois d'août, c'est le retour des fondamentalistes au pouvoir. Elles bluffent par leur courage quand leurs droits, eux, ne cessent d'être rognés. D'où cette sonnette d'alarme tirée par l'ONU. Dans un communiqué, l'organisation dénonce une tentative globale d'effacement des femmes et des filles de la vie publique en Afghanistan, s'insurge devant les promesses bafouées et la volonté toujours plus nette, systémique, de les exclure des sphères sociales, politiques et économiques. À l'appui, les experts onusiens refont la liste des mesures déjà prises contre les Afghanes. Tenue vestimentaire réglementé. Déplacement dans les transports et dans l'espace public, autorisé mais cornaqué par la présence d'un proche masculin. École pour filles, fermée. Refuge pour femmes, fermée. Avenir, craint l'ONU, exploitation sexuelle et mariage forcé. Mais déjà, interdiction de travailler et donc de gagner sa vie et donc d'avoir les moyens, peut-être un jour, de s'échapper. Ouais, tout ça en quelques tout petits mois. Face à ce qui ressemble tout de même à une vaste entreprise, je cite, de punition collective, l'ONU appelle la communauté internationale à réagir et vite.
Allez, on enchaîne avec le chiffre cinglant de la semaine.
100 C'est le nombre de coups de fouet reçus par une Indonésienne reconnue coupable d'adultère, et ce, devant des dizaines de personnes venues assister à son châtiment, et puis le filmer aussi, pour le diffuser, bien sûr, et le partager sur les réseaux sociaux. Ça s'est passé dans la province d'Aceh, région ultra-conservatrice, régie aujourd'hui encore par les lois de la charia. Entre autres, les relations extra-conjugales y sont interdites et sévèrement punies. Ouais, mais pas pour tout le monde, ou disons pas au même niveau, hein, cette femme. Fabienne, si elle a un amant, c'est qu'a priori, elle n'était pas toute seule, non ? Eh ben si, ouais, il y avait un homme avec elle, attrapé lui aussi par la police. Ouais, mais comme il a nié et que vraiment, vraiment, rien, ni personne n'a réussi à prouver sa culpabilité à lui, eh ben il n'a reçu que 15 coups de fouet, 15 pour lui, 100 pour elle.
Allez, ça grince sous les masques, c'est en Italie.
Et pas n'importe quel masque. Hein. Les derniers lots reçus par les carabiniers lombards, vénitiens ou siciliens étaient troués, non, défectueux non plus, nauséabonds encore moins, mais ils étaient roses. Et ça, ça n'a pas plu du tout aux forces de l'ordre, partout dans leur rang, décrit le quotidien La Repubblica. On sent aujourd'hui à minima la perplexité, mais souvent aussi l'indignation à l'idée de porter une couleur de fifi. Ah non, non pardon, cette référence-là n'est jamais explicite évidemment, pas totalement fou les carabiniers, hein. On parle plutôt de manque de sobriété et d'ornement excessif qui cadrerait mal avec la gravité de la situation pandémique. Ces mots-là, on les retrouve par exemple dans une lettre envoyée par un responsable syndical au directeur général de la police. Furieux, il en appelle au respect de l'uniforme et à la dignité avec laquelle il doit être porté. La lettre a fuité, tollé ou fou rire sur les réseaux sociaux dans ce qui ressemble fort tout de même à la manifestation d'une masque. Masculinité, un chouille fragile, hein, et qui fait, entre les lignes, ressortir tout le bien qu'on pense des femmes. Globalement, les carabiniers se font renvoyer dans leur corde avec cette réponse, par exemple, de la sénatrice Teresa Bellanova. Le respect pour les uniformes ne vient pas des couleurs, mais de la façon d'agir et du travail des hommes et des femmes qui portent ces uniformes. Et paf, Fabienne.
Allez, paf, on l'a bien senti. Merci beaucoup, Julia Foyce, et à mardi prochain, bien sûr.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
Le monde d'après, c'est Jean-Marc Four. Jean-Marc, demain, Emmanuel Macron sera donc à Strasbourg pour lancer face aux députés européens la présidence française de l'Union. Et à la veille de ce discours attendu, le Parlement européen a désigné sa nouvelle présidente, Roberta Metsola, c'est son nom. Elle présente la particularité d'être opposée à l'IVG, mais d'autres arguments expliquent son élection confortable ce matin. Alors, bon ou mauvais choix, c'est votre monde d'après.
Pour tous les défenseurs des droits des femmes, c'est un choix perturbant. Roberta Metsola, 43 ans, est donc opposée à l'avortement, vous le disiez, elle ne s'en cache pas. Et son pays, Malte et ses 500 000 habitants, est le seul parmi les 27 de l'Union européenne à interdire totalement l'IVG, quelles que soient les circonstances, même en cas de viol. Donc le message envoyé est troublant, surtout au moment où un autre pays, la Pologne, limite drastiquement l'accès à l'avortement. On comprend donc les réticences de plusieurs élus à Strasbourg et du secrétaire d'État français aux affaires européennes, Clément Beaune, ce matin, chez nos amis de France Info. Il s'est dit gêné par cette élection. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fait le tour du sujet. D'abord, Madame Metsola est donc maltaise. Et à Malte, c'est bien simple, impossible, dans ce pays très catholique, de faire carrière en politique en étant favorable à l'IVG. Ensuite, l'avortement n'est pas de la compétence de l'Europe, elle est du ressort de chaque pays. Donc l'élection de Madame Metsola sera sans doute sans conséquence sur le sujet. Et puis, à part le cas polonais, l'avortement s'est globalement imposé en Europe depuis 4 décennies, dernier pays en date à avoir légalisé l'IVG, l'Irlande. Enfin, Roberta Metsola promet que sa fonction prévaudra sur sa conviction intime. Elle portera donc le discours du Parlement, pas le sien propre. Donc ça relativise le poids politique de ce symbole troublant.
Alors d'autant qu'elle a d'autres atouts.
Oui, Roberta Metsola est certes conservatrice, voire réactionnaire sur l'avortement, mais pour le reste, elle est plutôt progressiste. C'est une avocate de 43 ans qui siège donc au sein du PPE, le groupe de centre-droit à Strasbourg, et c'est une combattante des droits. Elle défend les droits des LGBT+, c'est pas un détail, sur la Pologne par exemple. Elle défend la liberté de la presse, elle lutte contre la corruption, en particulier dans un dossier emblématique, celui dans son pays, on en a souvent parlé ici, de l'assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia, qui enquêtait sur les réseaux de corruption politique. Roberta Metsola est aussi favorable au droit d'asile et à une refonte de la politique migratoire en répartissant le fardeau de l'accueil des migrants entre les 27. C'est d'ailleurs une position qui est loin de faire l'unanimité dans son propre groupe. Elle connaît bien le dossier, hein. On rappelle qu'elle est de Malte, au sud de l'Italie, c'est aux portes de l'Afrique. Et d'ailleurs, elle a la réputation de très bien connaître tous ces dossiers. Un député européen français confie avoir été impressionné par sa maîtrise des sujets. Bref, Madame Metsola ne se résume pas à son opposition à l'IVG. Elle a beaucoup d'arguments. Et voilà pourquoi, sans doute, elle a été élue dans un fauteuil ce matin, 458 voix sur 690. Elle a ratissé au-delà de l'alliance des trois principaux groupes, le PPE de centre-droit, les sociaux-démocrates de centre-gauche et les libéraux de Renew.
Et puis, Jean-Marc, c'est une femme, elle est jeune, c'est une européenne convaincue.
Oui, elle est très investie depuis 10 ans au Parlement de Strasbourg, mariée à un Finlandais. À 43 ans, donc 43 ans aujourd'hui d'ailleurs, hein, c'est un joli gâteau d'anniversaire pour elle. C'est la plus jeune présidente de l'histoire de l'institution et c'est seulement la troisième femme à accéder à ce poste depuis que le Parlement est élu au suffrage universel. Trois femmes pour 14 hommes. Son élection constitue aussi un signal envoyé aux petits pays de l'Union européenne, en l'occurrence Malte, puisque ce poste de président du Parlement a été trusté par les grands pays, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. D'ailleurs, évidemment, son élection fait la une des grands médias à Malte aujourd'hui. Et puis Metsola est une femme de dialogue qui aime à chercher des consensus entre les groupes. C'est la logique même du Parlement de Strasbourg, cette émanation de plus de 450 millions de citoyens. Ce logiciel du compromis, on le sait, trop souvent absent des débats en France, et celui qui a d'ailleurs présidé à son succès d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les trois principaux groupes dont on parlait tout à l'heure, ont signé un package qui a vu le PPE, le groupe de Metsola, céder en contrepartie deux vice-présidences supplémentaires aux sociaux-démocrates et aux libéraux. C'est ça aussi, hein, la démocratie en action. Tout ça pour dire que l'élection de Metsola, vue comme ça, est logique, raisonnable, cohérente. Voilà, je pourrais conclure comme ça, mais c'est bizarre, hein, cette histoire d'opposition à l'IVG, elle laisse quand même un goût désagréable dans la bouche, surtout à ce poste de présidence du Parlement dont la première occupante s'appelait Simone Veil.
Et oui, merci beaucoup Jean-Marc Four, le monde d'après c'est tous les soirs dans Un jour dans le monde, donc à demain, dans un instant, dans le 18-20, il y a le journal d'Hélène Filly et puis le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous.